Culte saison 2, c'est la Pink Floyd Story en 12 parties, et aujourd'hui c'est l'épisode 6, French Floyd.
Monsieur et monsieur et mademoiselle, asseyez-vous s'il vous plaît.
Feuille n'aurait peut-être pas survécu sans le public français. Nous avons beaucoup tourné en France et nous sommes passés dans de nombreuses émissions. C'est un peu notre deuxième pays. La France a adopté notre musique très rapidement, contrairement à l'Angleterre, où notre base de fans n'était pas toujours très fiable. Dixit Nick Mason, s'adressant à Christophe Guedin, hors série du magazine Musique numéro 9, daté de novembre 2016. Pink Floyd n'est pas devenu un groupe reconnu et apprécié mondialement du jour au lendemain. Il a patiemment construit son succès, concert après concert, notamment depuis Londres dans de minuscules clubs. Or, il lui est manqué une reconnaissance publique et commerciale. Nul n'est prophète en son pays, dit le proverbe, cette reconnaissance est venue notamment de France. Jean-Marie Leduc, journaliste français et auteur du tout premier livre au monde consacré à Pink Floyd dès 1973, m'a raconté la chose suivante. Mai 68 est arrivé et Pink Floyd a vraiment été LE groupe anglais de cette période charnière. Le groupe et la musique psyché ne passaient jamais à la radio, ou très rarement, donc ils étaient attirants. Pink Floyd a beaucoup joué dans l'Hexagone. Il incarnait, bon gré, mal gré, un monde nouveau, une nouvelle conscience, tant politique, musicale et commerciale, collective et individuelle. Un palier a été franchi à partir de Medal en 71, avec cette couverture, cette pochette si psyché qui s'est vraiment beaucoup vendue en France, à la surprise générale de la maison de disques et de Philippe Constantin, le responsable d'EMI France pour l'international. Les Floyd vont devenir, pendant la période charnière avant et après Dark Side of the Moon, les chouchous de la presse spécialisée rock en France. On entendit ainsi Roger Waters s'exprimer au micro de Jean-Bernard Hébet sur RTL pour répondre, entre autres, à des questions sur la drogue, l'alcool et les groupies, ou bien sur Europe 1 dans l'émission Tout peut arriver de Jean-Michel Desjeunes en 75, à l'occasion de la sortie Wish You Were Here. Plusieurs fois durant l'échange, Waters fera remarquer qu'on interprète mal ses propos. Il y a des choses qu'il n'aime pas faire, comme jouer dans les stades, car le groupe est perdu dans l'immensité de ce type de lieu, et plusieurs dizaines de milliers de spectateurs bruyants qui interrompent la musique. Funeste présage. Un basculement s'effectue par la suite, après la sortie de The Wall. Le groupe ne tourna pas dans l'Hexagone pour la première fois après la sortie d'un album. Les tournées en solo de Waters et de Gilmour drainent des irréductibles au début des années 80, mais ce n'est qu'en 1988 que le groupe regagne pleinement l'estime du grand public avec deux concerts pharaoniques sur l'esplanade du château de Versailles en juin 88. l'Hexagone, la reconnaissance et la musique toujours vivace d'un groupe mythique transparaît à travers les nombreuses reprises proposées par divers musiciens amateurs éclairés ou professionnels, connus sous l'appellation de tribute band. Le terme tribute signifie hommage en anglais, même si les anglo-saxons utilisent plutôt l'expression de cover act. Mais groupe de reprise, la traduction littérale, gomme la notion de respect, de révérence contenue dans le terme tribute. C'est en constatant l'extraordinaire densité de groupes de reprise français que j'ai décidé d'ajouter un chapitre à mon livre Pink Floyd en France sur le sujet. Des Hauts-de-France à l'Auvergne, en passant par l'Aquitaine ou la Savoie, presque chaque région française dispose de son tribute à Pink Floyd. Ces groupes revendiquent pour l'immense majorité de ne pas copier les maîtres note à note, mais plutôt d'essayer de livrer leur version de Another Brick in the Wall, Money, Shine On. C'est évidemment une tâche immense, un exercice très casse-gueule, mêlant technique musicale pure, feeling, beaucoup de travail et parfois un peu d'inconscience. Citons les Feel of Floyd, les Best of Floyd, les Sounds of Floyd, Eclipse, Echoes, Moon Floyd. La liste est presque sans fin. Les plus acharnés des fans fabriquent à l'identique les équipements utilisés par le guitariste David Gilmour. Certains groupes créent des décors originaux, d'autres investissent dans des light shows impressionnants. Mais tous n'ont qu'un but, faire vivre une expérience Pink Floyd à des spectateurs cadra, quinca, sexa et plus, nostalgiques d'une jeunesse où l'on pouvait encore écouter de longs morceaux à la radio. Il s'agit aussi de faire découvrir cette musique aux générations Y et Z, des adolescents ou des trentenaires, leur faire découvrir des sonorités qu'il faut désormais aller chercher sur des web radios spécialisées. Philippe Gordiani, instigateur du projet Overdrive Trio, qui a consacré en 2008 un CD étonnant dédié à la musique de Syd Barrett, me confiait en janvier 2021 j'avais envie d'expérimenter une espèce de free rock, une musique relativement libre, mais proche de mes influences ancrées dans le rock et la pop. Nous avons commencé à travailler autour de compositions que j'avais écrites, puis l'idée m'est venue de reprendre Interstellar Overdrive, un des plus beaux morceaux de free rock selon moi. Il y a un riff de départ, puis ils partent dans des expérimentations complètement folles. Très simplement, on a repris le thème, puis improvisé, en se donnant des indications musicales, des intensités. Au sortir de la répétition, on s'est dit qu'on tenait quelque chose. On a joué par la suite l'album dans un réseau principalement jazz. Le jazz se nourrit d'habitude de standards. Pourquoi pas le réalimenter de chansons liées à la pop et au rock ? Écoutons donc la réinterprétation de ce morceau fondateur de l'histoire de Pink Floyd. Épisode 7, il sera question du combat des chefs. D'ici là, bonjour chez vous.